Bienvenue sur bagropoint.fr. Bienvenue, bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de bagropoint.fr. Un podcast dédié à l'actualité du mois et demi écoulé. À ma droite, pensif, Frionel. Salut Frio.
Yeah, yeah.
Accompagné de TMDJC.
Yeah, yeah.
En face de moi, Well Cook.
Yo, yo.
Et MK.
Coucou.
Et à ma gauche, Sly et Likey.
Salut.
Ils ont un seul micro pour deux, voilà.
Pour trois avec MK.
Pour trois avec MK, c'est vrai.
On peut le partager, alors, je peux partager avec MK.
Ouais, bon. On va commencer par parler de l'actu proche. On remercie avec Likey les gens qui nous ont suivis à Cannes, qui ont supporté nos digressions, nos insultes,
nos grossièretés,
nos téléphones portables.
Je trouvais le vocabulaire très très châtié.
Justement, le coupable, on l'a pas invité, c'est Valentin.
Voilà, on n'a pas invité Valentin. Valentin, si tu nous écoutes, t'es vraiment un pauvre con. Jamais plus je t'invite, tu vois. Donc merci à ceux qui aussi nous ont accompagnés à Cannes, Ken Bogard, Valentin, Red Chan.
Sendo,
c'est le mec qui s'incruste tout le temps. Ouais. D'ailleurs, il est pas là.
L'homme qui tombe à pic.
Ouais, complètement. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On va vraiment commencer donc l'actu avec. C'est tombé aujourd'hui même quand je me réveillais. C'était marqué il y a 28 minutes sur Facebook. Tu vois.
Ouah.
Likey est le seul que ça réjouit autour de cette table.
Je suis solidaire.
On est content. Youpi.
Super Street Fighter 4 sort en arcade. Alors,
mais,
Super Street Fighter 4,
c'est bon, ça veut dire que ça sera pas un jeu de console. Enfin, ça allait déjà un peu quand même.
Déjà, tu as commencé par tenir ton micro pas à la 90 degrés de. Voilà. Et ensuite, bah ouais, ça passe. Bah attends, excuse-moi, mais c'est pas un jeu console, mais un jeu développé sur console que tu
en
portes
fait,
en arcade.
Non, en fait, ce qu'on pouvait craindre, c'est que
on
Capcom.
Se console comme on peut.
C'est que Capcom, de toute façon.
Lionel est en porte.
Ce qu'on pouvait craindre, c'est que Capcom, de toute façon, ce qu'ils voulaient, c'était vendre les jeux. Ils ont très bien marché avec Street 4, maintenant ils avaient Super Street. Donc, de toute façon, ils vont les vendre. Et, s'ils le sortaient pas en arcade, bon bah voilà, c'était un PES 2010 quoi. C'est, ce qui se passait, c'est que on n'avait plus les on n'avait pas les tournois Jap, on n'avait pas, ça allait être différent. Quoi.
Ouais, mais il y a un truc à voir. Si le jeu s'il sort en arcade et qu'il est pas testé, ça rime pas à grand chose.
Je suis malheureusement un peu d'accord. Avec
ouais, voilà, c'est ça le principe. Le but de l'arcade, justement, c'est que tu fais quand même des log tests avec les joueurs de plus haut niveau que tu puisses trouver pour essayer. Bon, après, j'avais vu une interview de, comment il s'appelle, Seth Killian, qui justement répondait à ça en disant que les testeurs de Capcom sont quand même aussi des brutes. C'est-à-dire de niveau
non,
un peu haut joueur.
Ça suffit pas.
Mais je pense que ça suffit
dans
pas
une
quand
bulle,
même.
Tu vois pas tout.
Voilà.
Tu vois pas tout.
Je pense que c'est un peu ça aussi
mais
le problème.
D'un autre côté, on peut se dire avec un peu d'espoir, et ça, c'est les technologies d'aujourd'hui vont peut-être nous permettre, on peut avec un peu de chance se dire que la version console de Super Street 4 qui sort très bientôt fera office de locatest international et que grâce au retour des joueurs. D'un peu partout, ils pourront bonifier un peu la version arcade et avoir peut-être une version arcade améliorée de Street Fighter.
Ouais,
Super
on va avoir
un
résultat avec la version
et
console.
Et on aura ouais. Peut-être après une mise à jour de la version console.
En gros,
pas tout en même temps.
Une mise à jour ou une où tu rachètes un jeu.
Non, une mise à jour.
Alors moi, je suis désolé, mais je pense que c'est vraiment un problème parce que si jamais tout d'un coup, en fait, tu te mets à vouloir jouer à ton jeu que tu as joué X temps, et là on dit tout d'un coup pour pouvoir continuer à jouer, il faut que tu mettes à jour ton jeu et là du coup tout change dans ta façon de jouer, tu te retrouves avec
non mais faut pas que ça soit une mise à jour deux fois par an, mais si au moins c'est vrai que le log test, en fait ça sera un log test international où pendant peut-être pendant des mois ils s'aperçoivent il faut corriger pas mal de trucs, ils le font une fois et puis il y aura une V2 et puis voilà,
ça serait le but que ce soit proposé comme tel en fait.
Ouais bien sûr, mais de toute façon si ça le fait, ce sera comme les change log dans les STR, c'est-à-dire que on te dit bah tel machin a été nerfé de ça à ça, etc.
Enfin, en fait c'est juste Capcom qui fait ce qui est déjà arrivé à KOF 98 UM, à KOF 2002 UM quoi.
Ouais.
D'une c'est certaine vrai. Manière. C'est jeu sorti sur console, sauf qu'il était peut-être un peu plus fini sur console que ce que peuvent être les Street 4.
Bah, en fait, au niveau. Déjà, KOF 98 UM était prévu avant tout sur console. La sortie console a été arrêtée, bloquée, figée. Ils ont d'abord sorti le jeu en arcade, puis sorti une version console après. Mais c'est vrai que sur KOF 2002 UM, ce qui s'est passé, c'est que le jeu est sorti d'abord sur console, puis ils ont fait une version arcade. Et la version console a fait beaucoup de bien à la version arcade, puisque justement. Tous les bugs et petits trucs bizarres de déséquilibre qu'il y avait sur la version console ont été retirés de la version arcade. Bon, pas de chance pour les joueurs console, mais vu qu'on avait une version un peu en inférieure, mais ça a permis en fait aux gens de se recentrer sur la version arcade. Ça a permis à la version arcade de fonctionner en Asie. Et là, ils vont sortir après, donc une version Xbox qui, elle, correspond à, aux mises à jour de la version arcade. Donc,
ça, sachant, en plus, que la version arcade de KOF 2002 UM, enfin, c'est pas comme s'il y avait What 1000 trucs qui étaient modifiés.
Oui, exactement.
Il y a un infini d'Inako qui est parti, il y a un ou deux trucs comme ça. C'est vraiment des trucs, limite, tu peux les interdire en tournoi. Ça revient au même quasiment, tu vois. Donc, c'est pas un gros truc. Par contre, si c'est des gros craquages auxquels on n'imagine pas, c'est voilà.
Mais au même titre, du coup, là, Friou disait ils ont ressorti une version Xbox. On est d'accord, du coup, qu'il y a quand même une nouvelle version qui est sortie et que tu dois faire, enfin, tu dois en faire l'acquisition entre guillemets. C'est pas une mise à jour de, voilà, on est bien d'accord. Donc,
est-ce que ça, c'est différent. C'était pas possible sur PS2 de toute manière. Donc,
voilà, oui, c'est aussi parce que c'est sorti sur PS2.
C'est pour ça que la technologie, je parlais de technologie. En fait, je me dis peut-être que sur Xbox, ils vont proposer ça gratuitement.
Sur PS2, on a vu l'exemple de Guilty Gear Accent Core Plus à pas d'autres disques où on peut faire un data disc pour avoir le jeu en version corrigée.
Oui, aussi.
Ultime.
Mais aussi. Payant. Voilà.
Payant. Mais payant. Il était quand même au prix d'un data disc, quoi. C'était vraiment.
Ouais, il était à 10€, je crois, au Japon, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est toujours chiant, mais parce qu'en plus, une fois que tu l'as acheté, le CD, il sert plus à rien. Quoi. Bon, voilà. Donc, Super Street Fighter 4 en arcade. Le seul truc bien, je pense que ça va faire, c'est comme tu disais. Ça va proposer du haut niveau en vidéo, ça va donner envie.
C'est l'illumination qu'il y a actuellement avec Street 4, quoi. C'est pour la garder. Quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, ils sont un peu obligés, sinon de machin, ça va mourir un peu.
Bah, apparemment, ils n'étaient pas très convaincus. Quoi.
De toute façon, leur but, c'était de les vendre. Alors après, de garder.
Mais en fait, je pense qu'il y a aussi une décision à prendre. Aussi, c'est que Ono a dit qu'ils n'allaient pas refaire de nouveau Street Fighter 4 avant un petit moment après. Parce que déjà, il a dit qu'il allait partir en vacances. Bon, ça, on s'en fout. Mais en gros, ça veut dire qu'il disait pas de nouveau Super hyper Street Fighter 4 avant au moins un an ou deux. Donc à la limite, sortir une version arcade, elle va finir par être rentabilisée au bout d'un an ou deux. Frio, ouais.
Moi, je voulais juste revenir sur un petit truc, c'est qu'effectivement il y a eu une annonce. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie. Ouais. Je tiens juste à dire que au Japon, la dose, j'ai envie de dire, autour d'un jeu est beaucoup liée à ce qui se passe au niveau du Tougeki, car il y a des enjeux assez importants. Étant donné que pour l'instant, de manière officielle, le Tougeki est prévu de se passer sur Street Fighter 4 d'origine et que le Tougeki n'a pas lieu avant septembre. Donc ça peut-être, ça nous donne une indication que peut-être, je dis bien peut-être, on ne verra pas Super Street 4 en arcade avant le Tougeki. À moins qu'il y ait eu un changement d'annonce.
De toute façon, ils ont déjà fait les annonces.
Et ils ont rajouté KOF 13.
Hein. Non, voilà, le plus probable, c'est qu'ils annoncent pour au Tougeki que, la sortie de Super en arcade. Et le tournoi pour le Tougeki 11. Quoi,
voilà. Voilà. Mais il y a un truc, tout simplement, c'est qu'il y a catégorie A, B au Tougeki, et qu'en gros, là, ils ont rajouté pour KOF 13 une catégorie C. En gros, c'est une catégorie pub, démonstration. On va le dire comme ça. Le jeu, il est sorti depuis 2 mois, les gens n'ont pas eu le temps d'avoir du très haut niveau dessus. C'est catégorie show, comme ça, quoi, démonstration.
Et je pense que ça veut aussi dire catégorie entrée libre. C'est-à-dire
oui,
que
le tournoi serait gratuit.
Non, surtout, c'est pas ça. C'est qu'il sera accessible, pas de qualification. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de qualification préalable, les gens devront s'inscrire et participer sur place, un peu comme à l'Arcadia Cup, où il y avait une partie des places qui étaient en qualification, une partie c'était des tournois sur place.
D'accord.
Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, a priori il n'y aurait pas de nouveau Street Fighter 4, il y aurait un Street Fighter 5 qui serait prévu éventuellement si jamais ils décident de se repencher sur le problème, effectivement pas tout de suite.
Voilà,
ils
ne
parlaient pas d'un nouveau
Street Fighter 4 quelque chose. Voilà. Mais en gros, Ono avait dit d'ailleurs qu'il avait été déçu parce que pour Street Fighter 4, il voulait l'espèce de rendu.
Moche en tache d'encre.
Ouais, le rendu tache d'encre, non, il est joli, moi je trouve. Le rendu tache d'encre et ligne un peu. Joli, d'ailleurs, je crois qu'il y a un filtre pour ça dans Super Street apparemment. Donc ils ont réussi à le faire. À la base, ils voulaient faire tout le jeu comme ça, encore plus chiadé et tout. Et il n'a pas pu, faute de puissance console. Donc il disait. Mon avis, Street 5, ce sera pas avant la prochaine génération.
Ah oui, c'est plus une question d'optimisation que de puissance. Mais...
Ouais, mais en même temps, bon, voilà, c'est vrai que deux personnages dans un stage en 3D, ça consomme une PS3. Bref, on va. ça te brûle une PS3, tu vois. On va passer à la suite. Peut-être la plus grosse news, le plus intéressante, le plus dense, ce dont on a le plus, parce qu'on a quand même fait plus de 5 minutes sur Super Street 4.
Donc, alors qu'on a dit qu'on n'en parlait pas.
Voilà. Bref, donc, KOF 13, présenté le jeudi 25 mars. Vous avez pu voir sur Bagropoint des superbes images en exclusivité grâce à Ben. Merci Ben.
Sur Neo Arcadia aussi.
Sur Neo Arcadia qui a fait une très bonne interview du producteur mis sur Neo Arcadia aussi. D'ailleurs, Ben, si tu m'entends la prochaine fois, tu me préviens. L'interview,
elle est pour moi.
J'étais jaloux. J'étais là. Oh non. Ok. Alors, KOF 13. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. On commence par la base. C'est quoi la base? graphiquement, reprenons le truc de base. KOF 12 reste la base, si quand même le zoom. KOF 12 reste la base graphique du 13, mais avec pas mal de changements en fait.
Mmh. Ah, KOF 13 reste la base graphique.
KOF 13, non, KOF 12 reste la base pour KOF 13.
Ah oui.
Voilà. Question de point de vue.
Voilà. Son point de vue, c'est.
Donc, vas-y.
Bah, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'y attendait tous un petit peu. Après KOF 12, qui a proposé un rendu visuel jamais vu pour un jeu vidéo en 2D, il y a eu beaucoup de travail sur les sprites, sur l'animation, etc. On se doutait beaucoup que ces sprites allaient être repris pour un éventuel KOF 13, car après l'échec commercial et général de KOF 12, on était quasi sûr qu'ils n'allaient pas prendre les sprites et les jeter.
Bah, donc, c'est sûr.
On a pour la première fois dans un KOF, presque la première fois j'ai envie de dire, on a un KOF qui reprend absolument tous les personnages du jeu précédent. Il reprend les décors, les bases des décors.
Il
les modifie un petit peu. Donc on a vraiment. On a senti que SNK Playmore a cru en son projet KOF 12 et qu'ils ont voulu l'étoffer, le rendre beaucoup plus solide, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Donc reprise totale des sprites, reprise de l'environnement graphique, quelques changements visuels. Donc principalement, le premier truc qu'on remarque, c'est la disparition des zooms. Il y en a qui les regrettent, il y en a qui les apprécient. Alors, en tout cas,
il y a différents types de zooms. C'est-à-dire qu'à la base, les sprites sont très zoomés. Autrement dit, les personnages sont très grands. Et ensuite, il y a un autre zoom quand il y a le Critical Counter où là, c'est encore plus gros. Donc là, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le style visuel de base, c'est-à-dire sans le zoom du Critical Counter qui faisait que les personnages étaient très grands dans l'écran et qu'on avait l'impression qu'ils prenaient toute la place et que quand ils sautaient, limite, ils débordaient de l'écran. Cette fois, tout est zoomé en arrière. On recule, en fait. Donc c'est ce machin-là, c'est cette base-là. Par contre, il y a encore des zooms pour revenir au degré de zoom normal de KOF 12, lors par exemple des winning pose, quand les personnages.
Disons que c'est plus au cœur du gameplay, quoi, le zoom.
Bah, le zoom avant était.
Dans cette nouvelle version. Enfin,
c'est plus au cœur du visuel en fait. Voilà, alors, c'est plus
en
au
fait,
cœur.
On s'est rendu compte, et ça personne ne l'avait vu, hein, que s'il y avait un effet bizarre dans le gameplay de KOF 12, c'était aussi lié au zoom. Le simple fait qu'ils aient retiré le zoom et qu'ils aient laissé en fait une vue simple et une caméra figée, j'ai envie de dire, sur la distance qu'elle a, eh ben, on se rend compte que ça ressemble beaucoup plus à du KOF.
Tout simplement.
Donc déjà ça a fait un déclic chez beaucoup de joueurs. Ils se sont dit, ah, mais c'est vrai en fait.
On dirait KOF.
C'était le zoom, voilà. C'était le zoom en fait. Ouais. C'était le zoom qui donnait cette impression bizarre au saut. Il y avait un côté étrange à KOF 12. Et on se rend compte qu'en grande partie, c'était lié au zoom. Donc déjà, là, on voit que ça ressemble beaucoup plus à KOF. Ça, c'est la manière de bouger dans les scrolling, dans les déplacements. Okay.
Rien à ajouter, non. Bon. On continue au niveau. Alors, niveau gameplay, par contre, là, on va dire que.
Bah, ils ont fini le jeu.
Non, c'est pas qu'ils ont fini le jeu, c'est que tout ce qu'il y avait dans KOF 12, ils l'ont enlevé et ils ont mis des trucs des autres KOF, quoi. C'est,
exactement.
C'est un peu ça, quoi.
Exactement.
En gros,
si j'ai bien compris, et même pas. Du Critical Counter.
Voilà. Le Sousa est encore là, mais c'est, il est beaucoup moins figé. C'est-à-dire, quand il y en a un, ça fait limite comme un clash tout bête dans un Guilty Gear, par exemple, ça fait bout comme ça.
Ou dans Samurai Shodown. Je crois.
Peut-être un peu aussi. Mais en tout cas, c'est plus comme avant où après le Suzai, tu avais limite des options. Après le Suzai, tu pouvais aller vers l'avant, tu pouvais reculer, tu pouvais faire
sauter.
Voilà. Donc en gros, niveau gameplay, ça bouffe à tous les râteliers. C'est incroyable. En gros, tu as les sauts de KOF 11, si j'ai bien compris, qui ressemblent un petit peu à ceux de KOF 11. Il y a un roman de cancel comme dans Guilty Gear, à peu près. Non, c'est pas ça ?
Non, en fait. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait. Donc tout d'abord, au niveau du gameplay, donc, à part le Suicide qui a été conservé mais qui n'a pas la même importance, ils ont retiré tout ce qu'ils ont essayé d'intégrer dans le gameplay de KOF 12. Donc disparition déjà des counters, le système de counters de KOF 12, un peu à la Garou Mark of the Wolf où le personnage tourne sur lui-même, etc. Là on retrouve des counters qui ont un stun prolongé comme dans les anciens KOF, mais qui n'a rien à voir avec celui de KOF 12. Disparition du Critical Counter, donc de la même manière, complètement, plus aucune trace de ce truc-là. Disparition du arrière CD qui faisait un coup auto-contre automatique, ça aussi ça a disparu. Disparition du système de shop sans des shops de KOF 12. Donc là on retrouve vraiment le gameplay de King of Fighters. Donc réapparition des breaks CD, réapparition des breaks pastilles. On peut déchopper, heureusement. Hein. Les shops ont l'air de fonctionner un peu plus comme avant. L'ensemble du jeu, en fait, ça bouge vraiment comme un KOF. Ça se joue vraiment comme un KOF. À côté de ça, ils ont mis quelques nouveautés, on va dire. On va essayer de dire que c'est des nouveautés. Donc apparition des coups X. Donc ils ont un petit peu lorgné du côté de Capcom, de chez Darkstalker.
Bah, c'est un peu bizarre dans un KOF d'avoir des coups en X.
C'est bizarre, c'est nouveau, c'est vraiment
mais
nouveau.
Mais c'est plutôt bienvenu parce qu'en fait, ça pallie à une faiblesse du jeu le nombre de coups.
En termes, voilà, exactement.
C'est-à-dire que si ton personnage, tu le trouves pas assez varié parce que tu me dis il a pas assez de coups, il a quand même ses versions X qui ont des propriétés différentes. Donc deviennent, entre guillemets, des nouveaux coups. entre Genma qu'on est.
Clairement
voilà. Avec Athéna, par exemple, la boule qui fait 3 hits, le Psycho Ball, au lieu de faire un hit, fait 3 hits et absorbe les boules adverses, par exemple. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais c'est quand même un nouveau coup.
Mais c'est un moyen super, super astucieux d'étoffer la palette de coups sans pour autant avoir à dessiner de nouveaux sprites et de faire de nouvelles animations. Donc ça, c'était très ingénieux de leur part, en gardant en fait, puisque c'est très difficile de faire de nouvelles étapes d'animation sur un jeu pareil, ils ont trouvé un moyen astucieux d'étoffer la commande list en rajoutant les coups X. À côté de ça, on a les Fury X, mais en fait, c'est juste une nouvelle appellation pour parler des Fury Max qui avaient disparu dans KOF 12.
Et
qui
un seul
sont,
level
qui,
de Fury.
Qui sont revenus.
Qui de niveau de...
Voilà, exactement. Donc là, on les appelle les Fury X, donc pour aller avec les coups spéciaux X. Donc ça, c'est pas mal du tout. Autre grosse nouveauté dans le gameplay, c'est l'apparition de la jauge d'Hyperdrive. Alors, Hyperdrive, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un petit mélange d'un peu tout.
C'est un mélange de plein de systèmes de cancel, en fait.
Exactement. Ça, donc, tout d'abord, la première chose, la jauge d'Hyperdrive se remplit de manière indépendante de la jauge du Super. Elle se remplit avec les coups aussi, etc. On ne sait pas encore exactement comment elle fonctionne, mais elle se remplit avec le combat, pendant le combat. Cette jauge permet de cancel des coups spéciaux entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on va pouvoir cancel un coup spécial par un autre en consommant.
Tu peux aussi canceller les commandes move. Apparemment.
Les commandes move, on pouvait déjà les canceller.
Ah bon ? Non, mais genre, par exemple, le bas diagonal de D de Kyo, par exemple, tu peux le canceller en max.
Mais ça, c'est autre chose encore. En fait, c'est autre chose. C'est encore
en détail. Ah, il y a deux trucs.
C'est autre chose. Donc, en fait, donc la première chose, c'est les cancels sans activation, sans rien. Donc, on cancelle un coup spécial par un autre. C'est une chose, c'est pas une nouveauté, car dans KOF Neo, c'était déjà possible dans un des trois modes. Mmh. Autre possibilité, c'est les super cancels qui reviennent dans KOF. Donc, possibilité de canceller un coup spécial. Par une furie en utilisant cette jauge. Et une fois que la jauge est pleine, on peut passer en hyperdrive mode. Donc c'est une sorte de mode spécial, mélange entre le max mode de KOF 2002, les agrooves de CVS2. En fait, c'est une sorte de mode où on va pouvoir cancel tout et n'importe quoi. On a une grande liberté. On nous a expliqué ça un peu comme une sorte de jauge hyperdrive infinie pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on pourra tout cancel, coups spéciaux entre eux et furie pendant la durée de cette jauge. Et la grande différence par rapport à KOF 2002, c'est que une fois qu'on se prend un coup,
elle disparaît.
Et autre particularité de ce mode-là,
voilà, c'est pour ça que c'est un gros mélange, ouais, en fait, de plein mélange de systèmes de cancel différents.
Et donc, comme tu disais, effectivement, la grande force de ce mode-là, c'est qu'on peut cancel des coups non cancellables par l'activation, un peu comme KOF 2002, c'est ce que tu disais, ouais, donc avec Kyo, voilà, qui peut faire son diagonal D, passer en hyperdrive mode et te mettre un combo derrière.
D'accord. Par contre, j'ai pas bien compris le truc de KOF Neo Wave, comment ça fonctionnait.
Donc en fait, au KOF Neo Wave, t'avais un mode où tu pouvais cancel un coup spécial par un autre coup spécial, ça te coûtait une furie.
D'accord.
Donc
okay,
par exemple, ça, je sais pas, tu peux mettre un dragon à la relevé avec Kyo et te rendre compte au dernier moment qu'il est passé dans la garde et cancel ça par un coup de pied qui est safe. Ce genre de possibilité là. Donc ça, la jauge d'hyperdrive va permettre de le faire. Ce qui va rendre le jeu super riche.
Ouais, je veux dire que ce hyperdrive, ça fait aussi beaucoup penser au mode attaque qu'il y avait dans les KOF 99 2000. Tu sais, quand tu appuies sur ABC.
En mode counter mode.
Ça
s'en rapproche puisque les cancels étaient gratuits et qu'on pouvait les faire jusqu'à la fin du temps.
D'accord, donc niveau gameplay, c'est quand même hyper. C'est un gros mélange de plein de trucs, mais c'est fouillé quoi.
On a des années-lumière de KOF 12, ça c'est
clair. Voilà, mais alors par contre, moi il y a un truc que je me demande. Enfin, maintenant que j'ai des explications, je me dis quand même c'est super fouillé. C'est quand même très compliqué. Il y a aussi le système de small jump quand même propre à KOF que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc moi, KOF 13 pour moi, c'est le KOF qui veut attirer les gens qui jouent peut-être à Street 4 ou qui se mettent au jeu de baston ou autre. Est-ce que ça ne va pas être un peu trop compliqué par rapport à un Street 4 tout bateau, tout bête comme ça?
Bah, d'après la dernière interview que j'ai vue en fait, du producteur... Le plus grand challenge de le challenge de KOF 12 était de proposer un visuel d'actualité. C'était leur challenge, c'était réussir à trouver de faire un jeu de combat 2D mais qui soit aux normes d'aujourd'hui, qui soit convaincant visuellement. Donc ils ont à peu près réussi leur pari, on peut leur accorder ça. Après c'est une question de goût si on aime le style graphique, mais ils ont réussi leur pari, c'est-à-dire que c'est un jeu 2D super beau et qui est aux normes d'aujourd'hui. Leur pari d'aujourd'hui maintenant, le nouveau challenge, c'est de faire un jeu qui soit KOF, qui plaise aux KOFers, mais qui soit super accessible pour les autres joueurs. C'est leur challenge, et c'est sur ça qu'ils vont mettre tous leurs efforts.
D'accord.
Et je pense que ça va être délicat. Mais seul l'avenir nous dira.
Ce sera forcément délicat, parce que ce qu'ils avaient voulu faire, d'ailleurs, dans Street 4 au départ, c'était ça, c'était de dire, on attire tout le monde, tout en essayant de garder les gens qui jouaient à Street. Et en fait, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, malheureusement, qu'ils avaient perdu beaucoup... De ce qu'on a pu trouver dans Street 3 par exemple, au passage de Street 4. Alors on peut quand même leur tirer notre chapeau entre guillemets, parce qu'ils ont vraiment réussi à renouveler le genre dans le sens où il y a une, toute une nouvelle génération maintenant qui joue aux jeux de combat qui ne connaissait pas. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant effectivement le pari qu'ils se sont lancés là-dessus, SNK Playmore, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien.
Le problème surtout que je me dis moi, c'est que autant Street Fighter, les nouveaux joueurs vont peut-être y arriver, trucs comme ça et tout, autant j'ai l'impression que tu peux pas contenter les fans de KOF de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est tellement dur, c'est comme on en a parlé une fois, mais il y a KOF 98UM dans le sens rétro, il est ultime. KOF 2002UM dans le sens hyper compliqué, il est ultime. 66 match-up, des trucs hyper cruels, enfin des match-up où tu comprends pas. Genre, Eden, il t'envoie une boule, mais Sagat, il est gentil à côté, quoi. C'est les deux Tigers en même temps, quoi. Tu vois, ce genre de truc. À côté de ça, t'as KOF 11, qui est peut-être plus agréable, plus facile, plus. Parce qu'il y a moins de match-up cruels, de trucs comme ça. Par contre, t'as le système de tag, alors tout de suite, c'est plus compliqué. Etc. Donc en fait, est-ce que. Mais. Sorti de ces trois coffres là, on va dire, ou des autres, si tu essaies de faire un coffre plus simple, est-ce que tout simplement tu vas pas te mettre les joueurs de coffre traditionnels? Parce que quand tu es sur des coffres hardcore comme ça, enfin hardcore, toute proportion gardée pour KOF 11, mais quand tu es sur des coffres poussés comme ça, qui attirent pas les nouveaux joueurs mais qui attirent les anciens, j'ai l'impression que si tu simplifies, tu n'attireras pas les anciens. Et comme KOF n'est pas aussi connu que Street Fighter, tu n'attireras pas les nouveaux non plus.
Alors, en fait, il faut noter une chose, c'est que. Au niveau chez SNK Playmore, ils ont parfaitement compris cette problématique-là. C'est pour ça qu'ils font leur série UM, ouais, qui sont destinées aux anciens coffers, etc. Mais honnêtement, je pense que je ne pense pas qu'ils feront un coffre plus riche et plus intéressant que KOF 2002 UM ou que KOF 11. C'est sûr et certain. Pas avec un nombre de persos aussi réduit, pas avec des commandes listes aussi simplistes. Mmh. Mais il faut aussi savoir quelque chose, c'est que les communautés jouent pour la richesse du jeu, mais joue aussi pour tout l'aspect communautaire et tout ce qui bouge autour du jeu. Regarde ce qui s'est passé sur Street Fighter 4.
Tout le monde y joue,
tout le monde y a joué. Tout le monde y a joué. Au Japon, les meilleurs joueurs s'y sont mis parce qu'il y avait de l'émulation autour du jeu, parce qu'il y avait beaucoup de buzz.
Ceux qui détestent le jeu y jouent.
Ouais, exactement. Parce qu'il y avait beaucoup de buzz, beaucoup d'activité. Je pense que si KOF 12 réussit le pari, KOF 13, je veux dire, réussit le pari d'attirer de nouveaux joueurs et des non-coffeurs et que une communauté importante se consolide autour du jeu, je pense que les coffers ne passeront pas à côté. Peut-être pas qu'ils lâcheront leur jeu, mais je pense pas qu'ils passeront à côté d'un jeu coff avec les personnages qui leur plaît, voilà, avec un personnage qui leur plaît, avec un système qui se rapproche de ce qu'ils connaissent. Si ils réunissent beaucoup de monde, ils ne passeront pas à côté. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte.
Je suis d'accord avec Frio, moi, là-dessus.
Oui, je voulais dire pareil aussi. C'est juste que voilà, il faut savoir vouloir conserver les anciens, attirer les nouveaux, c'est difficile d'être compatible. Et ce qui est important, c'est d'augmenter le nombre général de joueurs,
ouais,
pour que le jeu y marche. C'est tout. Et si pour ça, ils doivent sacrifier un petit peu une communauté ancienne pour avoir plus de monde qui arrive, ils le feront peut-être.
Mmh. Voire très ancienne des fois, parce qu'il commence à avoir des joueurs de Street ou de KOF qui ont maintenant un certain âge. Donc,
Ouais, il y en a un qui tient un micro dans cette pièce d'ailleurs.
Et qui t'emmerde.
Pas de grossièreté.
Voilà. Bon, alors, on a à peu près tout dit sur KOF 13. Ah oui, j'espère que vous avez kiffé l'interview du sprite designer de KOF 13.
Exclusif. Exclusif à gros point.
De celle qui animait Maï. Ouais,
faut peut-être aussi dire un mot sur le casting.
Oui, c'est vrai, on a
tapé ça. Qui est quand même beaucoup plus important que celui de KOF 12.
Enfin, beaucoup plus. Non, il y a 9.
Il y a Maï, il y a Yuri déjà, c'est vachement bien.
Maï, Yuri, King. Entièrement redesigné d'ailleurs pour l'occasion, qui sont plus proches de leur version de Fatal Fury, je trouve, pour Maï, en tout cas au niveau position et tout comme ça.
Même King, elle a sa tenue d'Art of Fighting 1 qu'elle n'a jamais remise depuis.
Voilà, Yuri par contre,
c'est la même. Mais en fait, pour ces versions de King, Maï et Yuri, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve du KOF 12, c'est-à-dire on remet les persos à l'ancienne.
Ouais.
C'est vraiment les styles à l'ancienne.
Ah, c'est une façon de rendre hommage en fait, aux anciennes séries, alors qu'avant, les uniformiser, ce qui n'est pas question d'hommage, c'était actuel. Quoi. Là, c'est
donc, mais ils ont des petites nouveautés qui sont sympas, ça fait plaisir. Par exemple, Yuri qui récupère le dive kick de Sakura, comme vous le savez, Yuri est un personnage de KOF qui, chaque épisode, reprend un coup de Street Fighter.
Voilà, c'est ça.
Et là, on se demandait mais quel coup elle va reprendre. Donc là, elle a le dive kick de Sakura. Mm. Elle n'a plus son dragon, comme dans le premier King of Fighter. Mm. Donc ça, c'est le petit clin d'œil qui était sympa à voir.
C'était pas dans KOF 2001, elle avait le Tatsu, elle avait le Shingoku Tatsu de.
Oui,
n'importe quoi. Elle pouvait faire le Shin Shoryuken de Ryu et canceller le Shin Shoryuken pour faire le Shingoku Tatsu. T'imagines le crack
Dans KOF 2003, elle avait le Denjin Hadoken. KOF 2002 UM, elle a le Shesto, le coup de pied de.
Le coup de pied de Ryu,
Les Judan.
Judan Kiak. Il y a beaucoup à dire sur Ryu.
C'est un des personnages les plus fans de King of Fighters.
Bon, on en parlera un de ces jours.
Et donc, pour revenir sur le cast, donc pour l'instant, pas de grosses surprises. Les persos bonus de la version console se retrouvent dans KOF.
Avec de nouveaux coups.
Avec de nouveaux coups, bien
genre
sûr.
Elisabeth
avec
revient.
Des coups surtout. Ouais, parce ouais, que bon, ouais.
Ouais. Elisabeth et Mathieu, on retrouve la plupart de leurs coups voilà. De leurs anciennes apparitions. On a la Women Fighter Team, qui était la grande absente de KOF 12, puisqu'il y avait deux personnages féminins, alors que KOF, d'habitude...
Et encore, une gamine et un garçon manqué.
Effectivement.
Ça, c'était féminin.
Donc là, le retour de la Women Fighter Team, et on a des équipes qui sont assez intéressantes, parce qu'on a une team Kim Raiden, avec un point d'interrogation derrière, donc on attend tous un personnage Fatal Fury, on n'arrive pas à savoir qui ça sera.
Il y aurait des rumeurs qu'en quoi ce serait Wajai,
y a
parce
des rumeurs,
qu'il était, y avait des données prévues, le concernant exactement. Dans le disque de Cocteau.
Exactement, tout comme on a Rio Robert, donc on devrait penser à Takuma,
voilà.
Mais le suspense, on ne sait pas.
C'est marrant,
on se dit que
ce serait un autre perso, ce serait original, parce que les trois persos se ressemblent un petit peu, on aura exactement. Un effet Ryuken, Akuma.
Tous les persos qui ont été traditionnellement dans l'équipe Art of Fighting une fois ou une autre sont déjà casés.
Donc on a Yuri et King qui sont déjà dans la Woman Fighter, donc on se demande. On a par contre la moins de suspense, Yori mature, je pense
Vice,
que ça pourrait être Vice. D'autant plus qu'ils peuvent faire un spread swap, c'est-à-dire reprendre pas mal de positions de mature pour faire Vice.
Ouais, je suis pas sûr.
Ils ont pas mal de coups de base qui ont la même.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ils l'ont bien fait avec Ralph et Clark.
Ouais, voilà. C'est pour ça que beaucoup parlent de Wajai d'ailleurs, hein, en se disant qu'ils
seraient
capables de reprendre le spread de Joe.
Voilà.
On a une équipe qui est totalement inconnue, mais. Apparemment, on aurait...
Le site officiel a une image caliquée, ce serait Team K. Voilà, Kadash.
Il pourrait que ça soit la team de Kadash, au grand bonheur de tous ses fans. Moi, le premier.
Moi, j'attends.
Moi, j'attends complètement. Et donc, voilà. Pas beaucoup de persos en attente, mais déjà, ça fait... Là, on a des équipes. On a un jeu qui ressemble beaucoup plus à KOF. Et
déjà, rien que les équipes. Enfin, un KOF 12, on a tendance à l'oublier, mais il n'y avait pas d'équipe dans KOF 12. C'est la base du jeu, il n'y
avait
pas d'équipe dans KOF 12, tu vois.
Il n'y avait pas de boss, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien.
Exactement.
En fait.
Donc, pour parler du scénario rapidement, là, on a la suite de KOF 11, et l'intro du jeu qui a été montré pendant l'événement spécial le dit clairement, ça sera vraiment la suite de KOF 11. Dès le début, on
la
voit
fin de la saga H.
La fin de la saga H, on voit beaucoup de personnages qui étaient restés en suspens, notamment Mukai, le boss de KOF 2003, qui, les gens qui ont suivi un peu l'histoire savent qu'il n'était pas mort, il s'était juste enfui à la fin. Shen était à sa recherche d'ailleurs, et là on le voit, il est dans l'intro, on voit Rose, la sœur d'Adèle, on voit beaucoup de personnages voilà. Qui vont jouer un rôle, donc on sait certainement qu'il y aura un boss. Certaines personnes parlent d'une team de boss, vu le nombre de persos qui restent encore en suspens.
Ce serait pas étonnant, en fait.
Dans l'histoire, donc là c'est très bien, on repart. Maintenant après il y aura certainement des incohérences, des trucs un peu bizarres. Moi je ne comprends toujours pas pourquoi Terry, Andy, ils ont leur style.
Ah mais ça, moi ça je te dis, moi je réponds tout simplement à ça, c'est que comme on disait quand ils ont fait KOF en 94, KOF c'est un crossover. Il faut pas oublier que c'est un crossover. KOF en 94, toutes les séries SNK, tout le monde les connaissait. Donc résultat, tu pouvais et puis c'est comme ça fait comme Capcom versus SNK, tu mets le sprite de Morrigan avec le sprite de Chun-Li, enfin je veux dire. La différence, ça veut rien dire. T'imagines, t'aurais mis un sprite de Art of Fighting et un sprite de Fatal Fury. Donc, ils ont uniformisé les designs en KOF 94. Ils ont créé une identité visuelle, un peu fashion, un peu tendance, machin. Les persos KOF gardent ça. Mais maintenant, pour moi, avec KOF 12, ils se sont dit, c'est quoi la base de KOF ? C'est pas la moitié de personnages qui sont dans KOF 11 qu'on a créé pour KOF. KOF, c'est un crossover. C'est un crossover de séries connues. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend les designs de ces crossovers, de ces séries connues. Voilà. Pour moi, c'est pour ça. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Ils ont juste repris ça. C'est tout bête.
Il y a aussi un autre petit détail typique de KOF, c'est que Ash, qui est le héros, maintenant a l'air d'être tout seul.
Oui.
Ce qui finit toujours par arriver dans la saga de KOF à un moment ou à un autre.
Oui, oui. Bah, en fait, dans l'histoire, il a tellement banane tout le monde.
Oui, ouais, en fait, pour rappeler l'histoire vite fait, il a volé le pouvoir. En gros, les trois personnages principaux de la première saga KOF, c'était Chizuru, Yori et Kyo, qui ont chacun un pouvoir sacré, machin. Bon, bref, c'est super intéressant.
La légende de Rochinagi.
Voilà. En gros, il a volé le pouvoir de Chizuru dans KOF 2003. Il a volé le pouvoir de Yori. C'est pour ça que Yori n'a plus de flamme dans KOF 12,
exactement.
Dans KOF 11. Et apparemment, il veut se faire Kyo.
Exactement.
Dans celui-là,
mais
moi je sens le scénar complètement bateau. En fait, il est pas méchant, il a juste pris ça pour combattre le mal.
Peut-être. Il y a des hypothèses là-dessus, genre... mais il a escroqué tellement de persos que
en fait,
tout le monde veut sa peau.
Et c'est idiot parce que dans KOF 2003, il escroqué Duolon, donc Duolon n'était plus avec lui dans KOF 11. Dans KOF 11, il escroque Oswald et Shen. Donc Shen n'est plus avec lui dans KOF 13.
Dans la team qui le recherche d'ailleurs.
Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup parlent, disent que dans la team Akadash, il y aurait Adelheid. Donc le fils de Rugal, parce que il est à la recherche de sa sœur qui est contrôlée par les méchants. Et en gros, l'autre perso, certains pensent que ce serait Oswald
qui serait
là pour se venger de H.
Et qui sera surtout une très 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 bonne chose, car c'était une des plus grosses réussites en termes de design, de gameplay de KOF 11. Et c'est vraiment dommage qu'ils ne l'aient pas réutilisé par la suite.
Bah, on va voir. Mais de toute façon, s'ils le refont, je doute.
En tout cas, bon, on attend le jeu et voilà. On vous tiendra au courant.
Bon, on parle depuis plus de 25 minutes, alors qu'on devait faire 20 minutes, donc on va terminer assez rapidement sur le reste. Melty Blood, Actress Again, Current Code, change de système arcade, Well Cook, c'est
oui,
ça.
J'ai déjà oublié si c'était le Ring Edge ou le Ring Wide.
Ring Edge, le meilleur.
Donc c'est sur le Ring Wide, donc c'est le nouvel hardware entrée de gamme de Sega,
ouais,
qui c'est le processeur, c'est un Celeron, je crois.
C'est du PC, quoi.
C'est du PC. De toute façon, maintenant, ce sera que des PC.
C'est que des PC,
c'est clairement. C'est fait.
Pourquoi ils mettent pas des selles
Va leur demander pourquoi.
Ouais. Donc,
quand tu vois Rising Storm, ça peut faire des belles choses.
Donc voilà, donc en fait, Melty Blood passe un cap...
Melty Blood... Non, c'est pas un cap technologique, parce que le jeu, graphiquement, reste le même, mais c'est juste ces gars qui essayent d'offrir un nouveau système bon marché, abordable pour les stars de l'arcade et pour les développeurs faciles à développer.
Mais alors pourquoi ? Ouais, mais le Naomi est vachement implanté, donc c'est quoi le but de Sega ?
Le Naomi est vachement implanté, le Naomi n'est pas très très fiable non plus, et puis il commence à se faire un peu vieux.
Ouais.
Et puis voilà, maintenant tu as des outils PC, tu développes beaucoup plus vite avec des outils PC qu'avec des outils de
D'accord,
la Naomi.
Donc c'est une nouvelle méthode de prod et tout, c'est complètement...
Ouais, c'est surtout c'est abordable en fait. Et facile d'accès, quoi, parce D'accord. que développer sur PC, tu peux faire ça chez toi tranquillement, quoi, quand t'es un amateur, c'est... Voilà.
Tu fais les misérables. Autre chose. D'ailleurs, je vais passer une annonce rapidement. Le jeu de baston Les Misérables Armjo. Si quelqu'un d'entre vous qui nous écoute là, merci de nous contacter parce qu'on voudrait jouer à Armjo et on n'arrive pas à le retrouver sur internet. Donc voilà, contactez-nous. Rapidement, là où alors on écrit les où on enregistre BlazBlue CT est sorti en France. Enfin.
Sorti la semaine dernière. Je sais pas quand
après,
on va diffuser le podcast.
Un an après quasiment la sortie américaine et japonaise.
Un peu moins d'un an.
Un peu moins, moins de mois, donc 10 mois.
Bah, il était sorti quoi, en fin mai, non le... Ouais, c'est ça, ouais, fin mai.
Donc voilà, qui vient de sortir. Et à côté de ça, BlazBlue CS sort. Donc la deuxième version du jeu sort cet été sur console au Japon et aux États-Unis. Donc en fait, nous, encore une fois, je pensais plus que ça existait, ce genre de décalage.
Astronomique.
Astronomique, mais en gros.
Non, il n'y a pas de date.
Voilà. Pour la version américaine ? Si, si, il y a une date cet été.
Il sort oui, cet pas été. Été, mais il n'y a pas de date plus précise, quoi.
Non, été, début juillet, a priori. Et en fait, on se retrouve donc avec un jeu qui sort chez nous, alors que la version 3 persos en plus, parce qu'il y aura un perso en plus, sort dans 2 mois. Oui, attends, Well Cook d'abord.
Non, je voulais juste dire qu'il y avait une déclaration de Arc System Wars quand BlazBlue était sorti, où ils avaient avoué que pour eux, le marché européen, ça les désintéressait complètement. Vraiment, qu'ils n'avaient aucune envie, eux, de faire l'effort par eux-mêmes de sortir les jeux en Europe ou de contacter le public européen. Donc voilà, c'est un éditeur français, enfin européen courageux qui a voulu sortir le jeu.
Ouais, Trade West.
Mais les éditeurs originaux, ils ont aucun intérêt sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations aussi tendues.
Juste à dire, à souligner que c'est d'autant plus dommage qu'on se retrouve avec ce décalage parce qu'il y a vraiment eu un effort fait de la part de Trade West qui édite le jeu en France. Ils ont vraiment suivi une campagne marketing assez intéressante, ils se sont rapprochés des joueurs, des communautés, ils ont essayé de créer des ligues, des tournois. C'est la première fois que ça arrive en Europe qu'un éditeur de jeux de baston, surtout un jeu un peu underground comme celui-là, ouais, essaie de faire bouger les choses. Ils ont vraiment été très très proches des communautés, ils ont organisé des tournois, ils ont sponsorisé beaucoup d'événements et je tiens à leur tirer chapeau. Ouais, ils ont fait d'accord. Vraiment du très bon travail. C'est dommage maintenant que le jeu soit un peu dépassé, mais on se dit que si le jeu se vend bien, peut-être qu'on aura le droit à la même chose pour
et
la
comme
prochaine
comme on disait édition. Avec Koff tout à l'heure, s'il y a une émulation qui commence à se faire autour du jeu, ça peut fonctionner, quoi.
Et puis il y a une superbe édition collector avec des sticks pour chacune des consoles, un RAP 3 pour la PS3, ce qui est pas rien.
C'est vachement bien.
C'est même
et un X2 bien. Avec la Xbox, merci les mecs.
Oui, bon, on peut pas tout avoir, hein.
Ouais, on peut pas tout avoir, enfin en attendant c'est la version du pauvre.
Hein. Voilà, c'est une vraie belle version collector avec des trucs vraiment intéressants dessus pour le joueur. Donc,
il sort avec une semaine de retard. Voilà, ça sert avec une semaine de retard. Et d'ailleurs, par contre, Trade West, si vous m'écoutez, sérieusement, la version PC qui sort un mois quasiment après la version console, ou un mois et demi, je sais plus. Non, 2 mois quasiment. Ouais, il sort le 28 mai.
C'est dommage.
Mais faudra arrêter de fumer la moquette, là. C'est bon, quoi. Les joueurs PC de Street Fighter 4, moi, je joue essentiellement à Street 4, en fait, sur PC, étrangement, parce que les bons joueurs, je trouve plus facilement des bons joueurs sur PC, parce que comme les mecs sont des joueurs plus hardcore, naturellement, sur PC, ils s'investissent plus dans le jeu. Et ils attendaient BlazBlue et ils sont là, ils regardent les mecs jouer à la console et ils sont dégoûtés, quoi.
Et ce qui est, c'est un truc sympa, c'est que je crois que c'est la première fois que les joueurs Xbox peuvent jouer contre les joueurs PC.
Oui, enfin ça...
Ça veut dire qu'il n'y aura plus cette limite de... comme avaient les joueurs de Street Fighter 4 qui se sont retrouvés obligés d'acheter une Xbox ou se mettre sur PC pour avoir un panel de joueurs plus grand. Là, sur une seule des deux plateformes, on aura accès à une communauté plus grande.
Le problème, c'est que si le jeu il sort deux mois après, si le jeu il a fait un flop, ça ne changera rien. Quoi, et voilà.
Oui, et c'est surtout que si jamais les mecs ils vont arriver sur PC, ils vont avoir deux mois de retard.
Oui, en plus, les joueurs
PC... On peut quand même apprécier l'effort. Je trouve que
ça devrait être comme ça pour tous les jeux. Ça fait plaisir, c'est sûr. Ça fait plaisir quand même. Oui, Wellcook.
Non, je tiens juste à dire que malgré tout, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus et que, a priori, c'est un des meilleurs moyens contre les éditeurs pour lutter contre le piratage.
Bah, c'est pas une question de lutter contre le piratage parce que le piratage existe sur d'autres consoles. Il y a ça. Mais en fait, il y a un truc très simple, c'est que.
Le piratage sur PC est tellement plus accessible que sur console que pour pas.
Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça non plus. Le principe de base, c'est que sur PC, tu ne peux pas quantifier qui va jouer à ton jeu, parce que tu connais pas les machines des gens. Sur console, un éditeur, il te dit, je vais sortir un jeu. Vous le sortez sur quoi? Le mec, il va dire, bah, je vais le sortir sur console parce qu'il y a 50 millions de Xbox et 40 millions de PS3. Et voilà, ça fait 90 millions de joueurs potentiels. Tu vois? Et en gros, on te dit, bah, je vais le sortir sur PC. Ouais, mais vous avez des chiffres des gens qui ont une carte graphique pour le faire tourner, qui ont un stick arcade compatible, etc.
Je pense pour le souci, c'est que BlazBlue, il sort sur PC. Pourquoi il sort sur PC? C'est une ouverture de l'éditeur. L'éditeur, il prend un risque. Pour une plateforme, et c'est un public même qui ne connaît pas. Moi, je connais des gens qui attendent BlazBlue sur PC.
Bah, j'en connais, on joue ensemble tous.
On joue ensemble, de toute façon, voilà. Nathan. Et c'est un public donc plus difficile à cibler. Faire une estimation sur le nombre de joueurs qui vont effectivement acheter le titre, c'est un peu plus difficile.
C'est quasi impossible.
Et puis de toute façon, c'est un risque. Le versus fighting, il s'est un petit peu ouvert dernièrement au PC avec Street 4. D'ailleurs, merci à Capcom parce qu'ils ont quand même réussi.
Oui, c'est une bonne politique, sortent tous leurs jeux sur PC maintenant, Capcom.
Voilà.
C'est
bizarre. Sauf que
Super Street 4 n'a jamais été annoncé.
Oui, il est pas prévu.
Enfin, je pense qu'il viendra après, c'est toujours la même.
Il n'était pas prévu sur arcade.
Voilà, donc on va en terminer avec BlazBlue. Donc toujours est-il à noter, si vous jouez que à Street 4, que vous cherchez un bon jeu de baston, etc., faites-vous plaisir, c'est quand même un bon jeu. Il a des craquages, on est d'accord. Mais si vous aimez bien passer du temps sur le jeu de baston, dans le sens l'univers vous intéresse, machin, le mode story est ultra énorme, traduit en français.
Il y a un vrai scénar.
Pour
le mode story, je préviens tout de suite.
De quoi?
Il faut aimer lire,
mais en même temps, le principe, c'est ça. Je veux dire, en même temps, vaut mieux aimer lire un bon scénar que d'avoir le scénario d'Abel ou de Honda dans Street 4, quoi. Voilà.
Ce que je retiendrai, c'est que pour retrouver des joueurs hardcore comme toi, sur Street 4, il faut les jouer sur PC, alors.
Oh, la foire. Mais je joue pas à Street 4, moi.
Les meilleurs joueurs ne sont pas sur PC.
Meilleurs joueurs ne sont pas sur PC, mais en même temps...
Ils sont sur arcade.
Par rapport, on va dire, au pourcentage de joueurs que tu croises sur le live, en fait, ou sur le PSN, sur PC, je trouve que ça, le niveau est souvent meilleur, en fait. Mais je croise quasiment jamais de quel.
Écoute, moi, je joue sur PC et sur PS3, et sur PS3, on trouve du monde aussi.
Okay. Bon, on passe à la suite, peut-être. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Dead or Alive Paradise sur ma feuille? Parce que là, faudrait qu'on m'explique. Voilà. Alors, qui veut parler de Dead or Alive Paradise? Parce qu'il y a marqué Dead or Alive dans le titre, mais faudrait pas se foutre de la gueule du monde quand même.
Il y en a qu'un qui l'atteste.
Bon, Frio, vite fait. Alors, une minute, je chronomètre.
Dead or Alive Paradise, j'ai testé, voilà. Et donc, juste pour dire que le jeu est toujours aussi inutile qu'avant. Ils n'ont rien rajouté, aucun mini-game, aucun intérêt, vraiment rien du tout. C'est juste un jeu pour se faire plaisir aux yeux, j'ai envie de dire. Donc, passer à côté, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et d'argent. Voilà.
Ah, il y a des jolies filles. Hein. Oui, mais il y a des produits
un
taille pour ça.
Par contre, il y a un truc très rigolo, c'est que le SRB américain, c'est-à-dire ceux qui notent, qui font les commentaires des jeux 10, plus 12, plus 16, plus machin, ils avaient fait un commentaire interne qui a fuité et ils ont mis ce jeu est un jeu pervers où on passe notre temps à observer des femmes en bikini, machin, enfin un truc comme ça. Mais ils mettaient en doute en fait la santé mentale des gens qui jouent à ça, tu vois, et le fait que ça pouvait être dangereux presque un petit peu, genre est-ce que c'est pas un petit peu bon?
Il y a de ça. Hein.
Voilà. Excuse-moi. Voilà. Bon allez, pour en terminer, deux documentaires vidéo sur le versus fighting qui vont bientôt sortir. On parlait du premier, c'est Pixel Combat. On a pu en voir quelques-uns avec des t-shirts Pixel Combat à Cannes, dont Frionel ici. qui aujourd'hui
tout déchiré à Cannes.
Qui a tout,
tout raflé.
Il a tout raflé à Cannes. Hein. Il a tout gagné. Hein. Coff 11, Coff 98, comme 2009.
Tout gagné.
Non, pas Coff 98. Enfin bref. Donc Pixel Combat, qu'est-ce que c'est? C'est un document. Un documentaire.
Il était beau, il était beau.
Un documentaire sur le Versus Fighting qui est préparé depuis pas mal d'années, on va dire, par Jacques et Johan. Deux réalisateurs documentaires
qui travaillent dessus depuis 2005.
Qui travaillent dessus depuis 2005, donc c'est très drôle quand vous le verrez. Vous verrez la ganache des joueurs en 2005 où ils étaient tout jeunes avec des coiffures pas possibles et c'est bien n'importe comment, c'est très drôle. Et en gros, ça traitera, on va dire, un petit peu de vraiment de l'aspect communautaire. Frigo, bah, parle-nous-en, Frigo, parce que de toute façon, t'es interviewé dedans, je crois.
Je connais un petit peu les gens en fait qui travaillent sur ce projet-là. Donc c'est un projet qui a démarré en 2005 avec. Avec une équipe de reporters qui était partie au Tougeki pour suivre les joueurs qui étaient là-bas sur place. Donc c'était parti sur ça à la base, faire un reportage sur le Tougeki, et ça s'est développé et transformé en véritable
hymne,
hommage. C'est plus qu'un documentaire, c'est un véritable hommage à toute la génération de joueurs de jeux de baston qui ont fait des tournois, qui se sont investis, qui ont voyagé, baston, arcade un peu, ça englobe un peu tout, mais c'est un véritable hommage. Et je pense que ça sera une pièce unique qu'on gardera et ça sera peut-être l'une des plus grandes immortalisations de ces années-là qu'on a passé à jouer. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le documentaire est super fourni et super riche, super complet, et qu'il parle de l'époque avant Street Fighter 4.
C'est ça le plus intéressant, voilà, je crois, en fait.
C'est que c'est, ça va être super intéressant à regarder.
Donc pour tous les nouveaux joueurs, tous les nouveaux venus dans la génération Street 4,
il faut qu'ils voient ça,
c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils montrent que en fait, c'est un univers qui est super riche et qui se met en place depuis des années.
Et qui est plutôt vieux et que la plupart en fait, des organisations et associations existaient déjà avant, et sont mises en avant maintenant, mais existaient déjà depuis des années.
Donc
en fait.
C'est un moment, en tout cas, que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux, ça sera vraiment, vraiment un moment unique. Moi je compte montrer ça à mes enfants plus tard pour leur montrer à quoi ressemblait la communauté.
J'étais là, j'ai tout vu.
Mais j'ai une question quand même.
J'ai tout raflé.
Si jamais tu te baisses pas du coup pendant le freeze, est-ce que tu te bouffes la furie?
Alors pour vous expliquer, ça vient de CVS2. Ça vient de super de Sagat, même si on peut l'appliquer à la super de Sakura. Non, le Tiger Raid, commence par un lot au zéro frame, c'est-à-dire que si tu n'as pas ta garde basse au moment du freeze, c'est mort, tu bouffes la furie.
Voilà,
donc c'est ça. C'est Yamazaki 93, meilleur joueur européen de CVS2 qui dit ça.
Qui d'ailleurs a défoncé
Desora 3-0.
Voilà, donc, et sinon, l'autre documentaire, Hit Combo, qui en plus n'est pas qu'un documentaire, sera bientôt un site. Là, c'est plutôt les joueurs de Street 4 qui vont... Enfin, les joueurs en général, mais beaucoup Street 4, parce que la plus grosse communauté...
Ouais, c'est pas chacun, en fait, qui...
Comment tu me coupes la parole, toi, enfoiré?
Ouais, je te coupe la parole comme ça.
Ça parle de Street 4. Hein.
On n'en sait pas.
Bon, vas-y,
moi-même, j'en sais pas vraiment trop sur ce que ça va donner ce reportage. Ce qui est pas... C'est pas une surprise, c'est vrai que ça va être...
Ça sort dans le
ça va être beaucoup.
Dans un jour, 8h, 16 minutes et 23 secondes.
Non, en fait, dimanche, donc le temps que ça soit en ligne, il sera ouvert.
D'accord.
Ouais. Non, ça va être là son blog après ça va être sur les news des tournois et la communauté.
Beaucoup sur l'aspect communautaire. En fait,
voilà. Beaucoup sur l'aspect communautaire et compte rendu des tournois. Enfin comme le fait de toute façon actuellement Bachaka. Mais c'est vrai que le documentaire on va voir ce que ça va donner. Ça va être surtout sur Street 4 je pense.
Oui. Malheureusement.
Parce qu'il a interviewé beaucoup de joueurs aussi étrangers.
Ah moi il est pas venu m'interviewer quand je jouais à Guilty. Hein. J'étais déçu.
Donc on va voir. Normalement c'est prévu au mois de mai. Bon après c'est on en parle juste derrière Pixel Combat. Je pense que c'est clairement une autre échelle. C'est sûr que Bajaga là il a fait ça.
Ah oui il a fait.
Amateur.
C'est pas du tout pareil. Hein.
Mais c'est pour la communauté en tout cas, ça va être.
Oui, non, c'est un compte rendu déjà de tout ce qui s'est passé à Cannes. Comme nous, on l'a fait en son, un peu en direct et en arrache. Lui, il va faire ça de manière beaucoup plus soignée.
Avec
les images.
Juste ce qu'il a déjà fait avant, Bachaka, on peut lui faire confiance.
Ouais, je pense. D'ailleurs, la bande-annonce, il y a un teaser sur son site, vous verrez, il est très bien le teaser, il donne tout de suite bien l'ambiance. Quoi.
Oui, c'était juste pour dire que le documentaire dont on parlait juste avant, il va passer sur Game One.
Oui, pardon, Pixel Combat va passer sur Game One et sortira en DVD. Et comme...
Ah, c'est sûr, du coup,
il sortira. Il est déjà monté normalement au Game One, l'a déjà vu.
Il est chez Game One actuellement, donc il sortira en DVD. Donc tous les gens qui veulent supporter ça, il y aura moyen de l'acheter en DVD. Je ne sais pas à combien, je ne sais pas dans quelles conditions. Ce que j'espère, c'est qu'on pourra l'acheter sur des events plutôt que de le commander par la poste avec des frais de port, un truc comme ça. J'espère que ça pourra se faire et que ce ne sera pas un prix.
L'idée, ce serait que c'est les deux, absolument.
Voilà. Je ne sais pas la durée du documentaire, par contre.
Non.
Voilà. Donc on ne sait pas, pour le moment, parce que si c'est un DVD que ça dure 10 minutes.
Ils avaient dit que c'était un format d'une heure, et justement dans le DVD, il y aurait plus de 90 minutes ou un truc comme ça.
D'accord.
Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va en terminer. Plus rien à dire. Si, TMDJC, tu voulais nous dire un truc, je sais même pas ce que c'est.
Oui,
ça se trouve, tu vas me foutre la honte.
C'est bien possible, c'est bien possible.
Moi, attends, je dis au revoir. Allez, au revoir à tous.
Allez, merci. Au revoir. Moi, je voulais m'adresser à nos auditeurs. Moi, je voulais dire un truc. Je voulais leur dire que ici, à bas gros point, on t'avait entendu. Je peux tutoyer l'auditeur, il n'y a pas de problème.
Oui, tu peux le
bon,
tutoyer.
Bon, alors je te tutoie, auditeur. Je voulais dire que nous t'avons entendu, que tu sois Ender, Pat le Rebel ou Jojo003 ou tout autre pseudonyme mu par tes propres références. Avec un chiffre derrière, nous t'avons entendu toi qui nous a aimé pour avoir affronté Cannes et son World Cup Game. Tu voulais dire un truc?
Non, il trouve que c'est un peu long ton introduction, mais c'est
pas
grave.
Attends, t'as pas lu dans
ton non, je me suis dit qu'est-ce qu'il est en train de
le coup qu'il est en train de faire.
Il va me tuer tout le monde.
Nous t'avons aussi entendu nous dire que notre expression verbale n'était pas à la hauteur de nos prétentions. Alors je te le tutoie clairement, je suis bien de ton avis. Mais sans vouloir défendre ce sacripant valétudinaire de Nathan ni ses alter ego tout aussi cacochimes, je te rappelle que la passion qu'ils avaient à te fournir en information la plus fraîche possible n'eut d'égal que la fatigue accumulée et l'incapacité à gérer l'émotion de l'instant. Ne souffrant point d'ambiance délétère à gros point,
il y a encore 10 pages.
Genre, il y a encore 9 pages et demie. Je me vois sans sophisme dans l'obligation d'essayer humblement de te traduire la pensée volatile de mes comparses. Un exemple, par exemple, exemple de toute mise en abîme inutile, puisque vous avez sans nul doute écouté nos productions comme Isaac Cannes. Nathan à Ken Bogart en réponse à un trait d'humour que je n'aurais pas désavoué. Putain, t'es trop con. Alors, c'est quoi une putain? Tout simplement une consoeur de Mylène Farmer, péripatéticienne qui monnaie ses charmes et autres prestations buccales de manière plus ou moins onéreuse. Alors, c'est quoi un con, du coup? Alors, si on suit le Larousse, il s'agit du vagin. Alors, évidemment, clamer à Ken, catin, tu es trop vulve, n'aurait aucun sens. Il fallait comprendre le putain comme une exclamation de surprise, hein, la star de Sapalipopette ou Diantre. Ensuite, le con devait être compris au sens stupide du terme, en y ajoutant la complicité des deux hommes. Il fallait donc comprendre. Fichtre, tu es homme de bonne compagnie, mais je n'ose rire à ce trait d'humour de peur de passer pour un sot. Tu comprends maintenant, ami internaute, qu'il suffit parfois de lire entre les lignes pour saisir toute la subtilité et la finesse d'une joute verbale entre urbains civilisés. Il est logique que tu nous demandes de surveiller notre champ lexical puisqu'il n'est pas aisé de lire entre les lignes d'une diffusion audiophonique. Et non, pour finir, cher auditeur et autre cynique 187, Nathan n'a ramené ni pute ni coke.
Tu lis entre les lignes d'une diffusion audiophonique.
Mais c'est justement ce que je disais, c'est pas facile.
Comment
c'est...
ça, j'ai ramené ni pute ni coke?
Parce qu'on nous a demandé éventuellement si tu avais ramené des putes et des coke.
Les
gars, je tiens à vous dire quand même que c'était Cannes. Hein. Va acheter des putes. Cannes, je veux dire.
J'ai des adresses si tu veux.
Valentin, si.
Ouais. Bah si, Valentin, avec bon. Une cache-pas, il y a 3-3. Je pense que c'est bien. Alors,
j'espère que dans les commentaires, tu nous mettras des définitions pour tous les mots compliqués que les gens voudront pas ouvrir un dictionnaire pour les regarder.
Non, mais attends, mais il faut que les gens fassent l'effort d'ouvrir un dictionnaire un petit peu. Attends, ils veulent qu'on écrit.
En tout cas, merci pour cette
TMJC pour cette belle remise au coin. Et puis, j'ai envie de vous dire, de toute façon, pour résumer encore plus sa pensée, on n'est pas un site pro. On s'amuse, on est entre nous. Le jour où on sera payé, où on fera des trucs ou autre, comme
on fera notre gueule, on dira ce que veut les producteurs.
On fera notre gueule et vous aurez des super avis où on dira tous que Super Street 4 c'est mortel, que machin. Alpha Prime c'est mortel. Donc voilà, donc en tout cas, je remercie quand même les gens qui nous ont écoutés à Cannes, malgré. Rendez-vous au Stunfest. Donc voilà.
Stunfest.
Merci. On y sera tous, je crois, sauf MK parce que MK il craint. Voilà. Bon, allez, on en termine là. Merci à tous et puis on se retrouve dans un mois et demi pour un nouveau podcast d'actu. Salut à tous.
Salut.
Au revoir.